Radio Kapi.
Le journal Billy Van Lutumba. Comme nouvelle d'actualité en ce mardi 26 octobre dans le pays, c'est bien sûr la prestation de serment des nouveaux membres de la CENI avec en tête d'affiche son président Denis Kadima. Le déroulé de cette cérémonie, c'est en ouverture de ce journal avec Jeff Ngoy. Reprise des cours à l'EPST, il en sera encore question dans cette édition avec cette descente au gouvernorat de province du Sud Kivu, des forces vives de la société civile pour réclamer les enseignements dans les écoles conventionnées. À suivre dans cette édition, un reportage de Cynthia Bachizi depuis Bukavu. Comme invité, vous suivrez le secrétaire exécutif de la Commission électorale nationale indépendante Kassai Central, Joseph Poutou, en rapport avec le dépôt des candidatures au poste du gouverneur de cette province. Merci de votre confiance à Radio Okapi pour vous informer, fidèles auditeurs. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Les 12 membres de la Commission électorale nationale indépendante ont prêté serment d'entrer en fonction devant la Cour constitutionnelle à Kinshasa. Avec à la tête le président de la CENI, Denis Kadima, ils ont procédé à la signature du procès verbal ayant sanctionné leur serment de neutralité, d'indépendance et du secret de leur délibéré même après leur fonction. C'était au cours d'une audience publique solennelle en présence du Premier ministre, des présidents des deux chambres du Parlement et des institutions d'appui à la démocratie. Reportage Jeff Ngoy.
Une foule nombreuse qui envahit la Cour constitutionnelle fait de la dimension. Dans cette ambiance, Denis Kadima est invité à la barre pour prêter serment.
Je jure sur l'honneur de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Commission électorale nationale indépendante. Je prends l'engagement solennel de n'exercer aucune susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de la Commission électorale nationale indépendante, de garder le secret de délibération et du vote, même après la cessation des fonctions, de ne briguer aucun mandat électif aux échéances en cours, même si je ne fais plus partie de la Commission électorale nationale indépendante.
Le juge président de la Cour lui en donne acte.
La Cour reçoit votre serment en qualité de membre et de président de la Commission électorale nationale indépendante et vous en donne acte. Sincère félicitations.
Dès mercredi, c'est la remise et reprise avec l'équipe sortante de la CENI.
Parlons de cette autre réalité au Congo central. Le gouverneur Atou Matubwana reprend ses fonctions selon une décision judiciaire. Le Conseil d'État a suspendu depuis le samedi 23 octobre l'intérim au gouvernorat de la province. Et hier lundi, il a notifié son ordonnance mettant fin à cet intérim au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, au ministre d'État en charge de la Justice, ainsi qu'à toutes les autres parties concernées dont la CENI. Jeff Ngoy pour les détails.
Atou Matubwana avait saisi en septembre dernier le Conseil d'État, section contentieuse, siégeant en chambre de conseil en matière de référés liberté. Il avait demandé au juge des référés liberté de mettre fin à l'intérim ouvert par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur à travers son message officiel du 5 septembre. Selon Atou, la décision du vice-premier ministre portait atteinte à ses libertés fondamentales. La loi sur les juridictions de l'ordre administratif dispose à son article 283 que lorsque une décision porte atteinte aux libertés fondamentales, le juge en référé liberté est saisi pour se prononcer. C'est ce qui vient d'être fait et le juge lui a donné gain de cause. À l'audience, le conseil du vice-premier ministre avait soulevé l'exception d'anticonstitutionnalité pour bloquer le juge, estimant qu'il revenait à la Cour constitutionnelle de statuer sur l'affaire. Le juge a rejeté ce moyen. C'est depuis hier lundi qu'il a notifié toutes les parties. Le parquet général près cette haute juridiction est chargé d'exécuter immédiatement cette ordonnance.
Et pour mieux comprendre cette affaire en rapport avec les zones d'ombre, au moment où nous parlons, la CENI s'attelle à organiser une nouvelle élection du gouverneur de la province. Est-ce qu'elle va se buter à cette décision du Conseil d'État? Est-ce que par cette ordonnance du Conseil d'État, Atou Matubwana reprend automatiquement ses fonctions ou faut-il encore une notification du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur? Suivez la réponse de Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Il a été joint par Alain Irung.
Mais la
question de droit qui demeure est de savoir si c'est la destitution de Atou Matubwana qui reste en fonction, parce que il se pourrait qu'en exécution de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, que le vice-premier ministre ait considéré que Atou Matubwana ne doit plus continuer à exercer ses fonctions de gouverneur de province du Congo central, mais peut-être c'est la manière dont lui, le ministre, a organisé l'intérim par une simple lettre qui n'a pas plu au Conseil d'État, et lorsqu'il a été saisi par le requérant, c'est la question de la forme là qui a intéressé et a ordonné que les effets de cette lettre soient suspendus.
Pour l'instant, Atou Matubwana ne reprend pas ses fonctions.
Non, bien sûr, vous savez que celui qui doit exécuter la décision du Conseil d'État, donc cette ordonnance, c'est le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, et que si lui a une autre lecture par rapport à un autre arrêt, par exemple de la Cour constitutionnelle, il considérera qu'il est en face de deux décisions de justice à exécuter, et partant, celle qui ordonne la déchéance a plus de valeur que celle qui ordonne l'intérim. Il peut corriger la manière d'organiser cet intérim-là, et les choses reprennent comme il avait déjà décidé.
Parlons en plus bref de cette motion de défiance contre le ministre de la Défense. Les auteurs de cette motion ont passé plusieurs heures ce mardi depuis le matin et jusqu'à en ce moment encore au service courrier du président de l'Assemblée nationale qui refuse selon eux d'accuser réception de cette motion. D'après les députés Foura et Jean-Baptiste Kasuekwa, respectivement élus de l'Ituri et du Nord Kivu, cette motion est relative à la détérioration de la situation sécuritaire au Nord Kivu et en Ituri. La motion contre le ministre de la Défense est signé par 51 députés nationaux. Autre chose, le Forum régional sur la lutte contre les discours de haine par les médias en Afrique centrale a débuté ses travaux aujourd'hui à Douala, au Cameroun. Le but poursuivi est de sensibiliser et renforcer les capacités des médias et des organes de régulation de la communication sur la prévention des conflits liés aux discours de haine et la lutte contre ce phénomène en Afrique centrale. Ces assises qui se tiendront durant 4 jours dans la capitale économique du Cameroun et qui réunit des journalistes et acteurs des réseaux sociaux venus de 11 pays de l'Afrique centrale vont se clôturer le vendredi 29 octobre prochain. Depuis Douala, Pamela Loubaki revient sur l'essentiel de cette première journée.
Premier à prendre la parole, le directeur exécutif de l'Association camerounaise des professionnels des médias a remercié les organisateurs de ce forum qui vise à éradiquer les maux du discours de haine dans une sous-région sujette au conflit. D'après lui, cet atelier revêt une importance capitale pour les journalistes car il arrive au moment où la haine a envahi les médias dans la sous-région de l'Afrique centrale. Tabé Taryong.
L'atelier est très important pour les journalistes dans le pays de Centrafrique, parce que ça vient d'un moment où la haine a pris tous nos médias. Donc, c'est par les médias qu'on doit combattre cette haine. Faire tout ce qu'on peut pour combattre la haine, la discours de haine, les xénophobies et tous les mots qui sont dangereux dans le média et hors du média.
Au nom de toutes les entités des Nations Unies présentes à ces travaux, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale a, quant à lui, adressé un tableau sombre de la situation en Afrique centrale, en particulier dans les États en proie aux conflits armés, à d'autres crises violentes ou à des processus électoraux tendus. L'enseigne Fall.
Les discours de haine sont utilisés comme armes par de nombreux protagonistes. Les élections présidentielles au Gabon en 2016, au Cameroun en 2018 et en République démocratique du Congo, RDC, en 2019. Entre autres, ont donné lieu à une montée de la haine communautaire ciblant les groupes dont ont issu certains candidats.
Depuis Douala, Pamela Loubaki pour Radio Okapi.
Parlons à présent enseignement au sud Kivu, à Bukavu. Les forces vives de la société civile étaient dans la rue ce mardi 26 octobre pour exiger la reprise des cours dans les écoles des secteurs conventionnés. Plusieurs parents ont également pris part à cette marche qui est partie de la place Muziroa à Muniawera jusqu'au gouvernorat de province. Un mémorandum adressé au président de la République a été lu et remis au gouverneur du sud Kivu par le président de la société civile de cette province. Reportage de Cynthia Bachizine Nabizana.
Ils étaient plus d'une centaine de manifestants formant un cortège le long de l'avenue Patrice-Emery Lumumba, artère principale de Bukavu. L'éducation de nos enfants est un droit. Nous voulons que nos enfants soient à l'école et non à la maison, pouvait-on lire sur certains calicots arborés. Pour Adrien Zawadi, président de la société civile du Sud Kivu, la grève des enseignants établit une injustice sociale qu'il faut corriger.
Il ne devrait pas y avoir une éducation pour les écoles privées et les écoles publiques dans un même pays. Tous les enfants congolais, riches ou pauvres, ont droit à l'éducation. Eu regarde à ce qui précède, les parents d'élèves et les acteurs sociaux du site Kivu exigeons la reprise immédiate des cours d'ici lundi 1er novembre 2021, car la grève des enseignants expose nos enfants à de multiples risques.
Précisons que la société civile dans toute sa diversité était aussi mobilisée pour exiger la suppression de la taxe RAM. À cet effet, une lettre ouverte adressée au président de la République a été aussi lue et remise au gouverneur de province. Notez aussi qu'une manifestation similaire a été organisée simultanément à Shabunda. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Dans la même province, la zone de santé de Mulungu en territoire de Shabunda enregistre un taux de mortalité très élevé. Situation qui fait suite à la malnutrition sévère qui sévit dans cette zone depuis le retrait de MSF dans cette partie du territoire de Shabunda il y a 8 mois. L'hôpital général des références de Kigulube rapporte plus de 80% des cas de décès dus à la malnutrition depuis la rupture des intrants qui étaient fournis par MSF. Jean Kassami nous appelle depuis Kigulube en territoire de Shabunda.
La plupart des victimes sont des enfants de 6 mois à 5 ans. D'après le médecin directeur de l'hôpital de référence de Kigulube, la malnutrition est provoquée par l'abandon des activités agricoles au profit de l'exploitation artisanale des minerais. La population de Kigulube préfère aller creuser de l'or au lieu de cultiver pour avoir des produits vivriers. Comme conséquence, l'alimentation devient médiocre et non variée. Et du coup, la population patauge dans la sous-alimentation qui conduit à la mort. Docteur Kikuka Maïber indique que son hôpital compte lancer une campagne de sensibilisation de la communauté aux travaux champêtres. Mais en attendant, il lance un appel pathétique aux organisations humanitaires de venir en aide à la population de Kigulube Mulungu. De Kigulube, Jean Kassami, Radio Okapi.
Carence alimentaire à Kigulube, nous parlons maintenant de la carence en eau dans la province de Lomami, dans la ville ferroviaire de Moneditou, à 132 km de Mbujimai. L'eau potable de la régie des eaux n'écoule pas au robinet depuis bientôt 2 semaines. Un bassin d'eau qu'on vendait à 50 francs au niveau des sources d'eau mais aménagées coûte actuellement 200 francs congolais. Au centre secondaire de la régie des eaux Moneditou, l'on parle d'une panne survenue sur le groupe électrogène du centre de captage d'eau au niveau de la rivière Moussadi à 6 km de la ville. Des explications avec Esther Ndalafina.
Cette carence d'eau présente déjà des conséquences sur le panier de la ménagère. Un bassin d'eau qui se vendait à 50 francs congolais, dont des sources aménagées coûtent actuellement 200 francs congolais, les ménagères se plaignent. Aline Moussouamba.
À la source des instants, un bidon, chaque fois, des choses, il y a beaucoup de gens en demande 200 francs. On a demandé des bidons.
Avec les pluies qui s'abattent régulièrement la nuit, les sources deviennent boueuses et rendent l'accès difficile à l'eau. Yvette Mbouyi s'inquiète de cette situation.
Quand il pleut comme ça, on ne sait pas retrouver de l'eau là. Il y a de la boue qui dérange de l'eau de la source. On contribue aux 200 francs, 200 francs, et ça, l'on va attendre même 2-3 heures du temps pour avoir de l'eau. Il y a de l'eau.
Le directeur du centre secondaire de la régie des eaux Moneditou annonce pour sa part l'arrivée en Mbujimai d'un autre générateur en provenance de Kinshasa pour remplacer celui qui est tombé en panne, François Mkonkole.
C'est depuis la semaine passée que le groupe devrait arriver, mais jusqu'aujourd'hui on va d'aéroport en aéroport. Dans moins d'une semaine, la population aura de l'eau.
Signalons que pendant cette période de carence d'eau, quelques quartiers de la ville ferroviaire de Moneditou recourent aux puits d'eau traditionnels non motorisés pour s'approvisionner en eau. Esther Ndalafina, Mbujimai, Radio Okapi.
Plus de 50 viols et d'autres violences sexuelles sont enregistrés chaque mois par l'ONG Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement Intégral SOFEPADI. Ces chiffres ont été révélés le week-end dernier lors d'un atelier de réflexion sur les raisons qui bloquent la participation des femmes dans les instances de prise de décision ainsi que dans les églises. D'après la chargée de la structure d'accompagnement juridique de cette ONG, ces cas de violences sexuelles sont dus aux conflits armés en Ituri et la plupart des victimes sont des filles mineures. Edwin Kiwerero invite les autorités à prendre leurs responsabilités en face à cette situation humanitaire.
Actualité internationale.
Ce lundi 25 octobre, en signe de soutien, les pays membres de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, ont organisé la journée de lutte pour la levée des sanctions unilatérales contre le Zimbabwe. Depuis février 2002, le pays est sous le coup de sanctions financières par les États-Unis et l'Union européenne. Ces sanctions avaient été à l'origine imposées contre l'ancien président Robert Mugabe et ses proches, leur interdisant de se rendre aux États-Unis. D'autres mesures ont bloqué l'accès aux Zimbabwe auprès des institutions financières internationales et malgré la chute en 2017 de Robert Mugabe, ces sanctions économiques sont toujours en vigueur. Son successeur Emmerson Mnangagwa fait d'ailleurs partie des hommes politiques visés par ces sanctions. L'entreprise pharmaceutique Moderna a annoncé mardi qu'elle mettrait jusqu'à 110 millions de doses de son vaccin contre la COVID-19 à la disposition des pays africains, une bonne nouvelle pour le continent le moins vacciné au monde. Selon le communiqué, Moderna est prêt à livrer les 15 premiers millions de doses d'ici la fin de l'année, 35 millions au premier trimestre 2022 et jusqu'à 60 millions au deuxième trimestre et ce au prix le plus bas.
L'invité.
Le secrétaire exécutif de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Kassai Central, est notre invité. En prévision des élections de gouverneur et vice-gouverneur prévues le 3 décembre prochain, son institution a démarré à Kananga l'enregistrement des candidatures. Il en parle dans cet entretien avec François Kadima.
Monsieur Joseph Mputu, bonjour.
Bonjour.
Les élections pour les provinces à problème, notamment le Kassai Central, c'est prévu le 3 décembre. Avant cette date, qu'est-ce qui est prévu pour ceux qui désirent se présenter comme candidat gouverneur ou vice-gouverneur du Kassai Central?
Nous avons reçu le calendrier qui émane de la décision 017 du 22 octobre. Le bureau de réception et de traitement des candidatures est ouvert dans la province du Kassai Central. Tout le personnel est installé dans le bureau. Je voudrais rappeler que le bureau est ouvert le 25 et va fermer ses portes le dimanche le 31. Ça, c'est à l'attention de tous les futurs candidats qui veulent venir retirer les fiches et puis déposer leur candidature. C'est dire que après le 31, le dimanche, il n'y aura pas un jour de plus. Donc, ils doivent se préparer. Ça, c'est, j'ai mis ça entre parenthèses. S'agissant des opérations, le bureau de réception de traitement de candidature reçoit les candidats. Il y a deux sortes de candidats. Il y a les candidats qui émanent de partis politiques ou de regroupements politiques. Et ceux-là, ils peuvent retirer les formulaires en envoyant leur mandataire. Il y a les candidats indépendants qui, lui, peut choisir son mandataire qui peut venir retirer les formulaires ou soit lui-même peut se présenter à notre office, c'est-à-dire au BRTC, pour retirer ses formulaires. Voilà le travail que le BRTC est en train de faire d'abord dans la réception de candidatures.
Alors, après cette étape, quels sont les critères pour toute personne qui peut venir soit d'un parti politique, soit un indépendant, comme vous l'avez dit?
En principe, les critères sont repris dans la loi. À l'article 161, il faut seulement être de nationalité congolaise, être âgé de 18 ans, révolu hein, à la date de la clôture de dépôt de sa candidature, et ça on contrôle très bien à partir de notre carte que nous avons délivrée. Il faut jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Les candidats doivent avoir la qualité d'électeur, c'est-à-dire avoir la qualité d'électeur, c'est munir de sa carte d'électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature. Jusque maintenant, nous n'avons pas encore connu ces cas d'un futur candidat ou d'un candidat qui n'a pas été enrôlé. Le candidat doit avoir un diplôme de graduat, au moins, mais la loi dit que le candidat peut justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans l'un des domaines suivants. Les domaines politiques, les domaines administratifs, économiques ou socioculturels. Voilà les conditions d'éligibilité.
Le 31, vous clôturez avec l'enregistrement des candidats, gouverneurs et vice-gouverneurs. Qu'est-ce qui va suivre? Quelles sont les prochaines étapes jusqu'aux élections?
Le BRTC va fermer ses portes le 31 octobre 2021. Le vendredi 5 novembre 2021, il y aura l'ajout, le retrait ou substitution des candidatures. Le dimanche 7 novembre 2021, il y aura l'étape de transmission des dossiers physiques de candidats au bureau de la CENI. Donc, c'est-à-dire notre province, comme toutes les autres provinces qui sont concernées par cette opération, nous allons transmettre les dossiers physiques à Kinshasa et pour délibération dans la plénière. Le lundi 8 novembre 2021, le bureau de la CENI va publier la liste des candidatures recevables et non recevables. Et on va aller plus loin. Le vendredi 19 novembre 2021, il y aura la publication de la liste définitive des candidats pour la CENI. Et le vendredi 3 décembre 2021, il y aura vote de gouverneurs et de vice-gouverneurs. Évidemment, avant ces votes, il y aura l'accréditation des témoins. Nous allons interagir avec notre assemblée provinciale. Il y aura la campagne électorale et qui va déboucher sur le vote que je venais de parler.
À l'ouverture de BRTC, il n'y a pas engouement. Quel message vous passez en tant que numéro 1 de la CENI au Kasaï Central?
Nous référons à l'expérience du passé. Nous lançons un appel à tous les partis politiques, à tous les candidats indépendants, de respecter cette échéance du 25 au 31. Parce qu'après le 31, nous ne recevons aucune personne, aucune candidature. Donc ils doivent se préparer maintenant parce que le bureau est ouvert de 8h30 à 16h30 chaque jour. Donc nous restons au bureau, nous attendons ces candidats, nous attendons ces partis politiques, nous sommes disposés à donner tous les éclaircissements sur les dossiers. Il ne faut pas qu'après le 31, que quelqu'un vienne le lundi, voilà, je viens déposer, donc les bureaux seront déjà fermés.
Monsieur Joseph Poutou, nous vous disons merci.
Merci à Radio Okapi.
Et à vous, fidèles auditeurs, nous disons aussi merci d'avoir suivi ce journal qui s'est ouvert par les 12 membres de la Commission électorale nationale indépendante qui ont prêté serment d'entrer en fonction ce mardi devant la Cour constitutionnelle à Kinshasa, tout en vous signalant que ce journal a été préparé par Élisée Tikotapele, Kipe Lamondo, Jean-Noël Mokonda assurait la prise des sons et la mise en onde, et Billy Van Lutumba était devant ce micro pour la présentation.